Merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation qui reste impressionnante et qui scotche un peu par le phénomène tentaculaire de ces entreprises. Alors des entreprises qui en plus, enfin c'est vrai que tu parlais de taille et de choses impressionnantes. Moi aussi j'ai l'habitude de vivre en milieu rural et loin de ces modèles d'exploitation. D'habitude, oui, c'est plutôt des groupes coopératifs auxquels on pense quand on voit la taille de ces entreprises. Est-ce qu'il y a des questions, pardon, qui ont été qui souhaiteraient être posées? Voilà, il y avait une précision sur le concept de lean management et puis
Oui.
moi j'en étais notée aussi quelques-unes. Alors peut-être que je te la pose comme ça, après je te laisse la parole pour répondre à ces deux questions. J'aimerais bien revenir sur ce phénomène de délégation et de sous-traitance finalement du travail agricole que je trouve dans le pointage est intéressant. Enfin, tous les deux, vous avez bien mis en évidence que c'est pas forcément la taille de l'exploitation qui est en jeu sur ce phénomène-là. Ça me faisait penser à au fait que de plus en plus d'exploitations soient aussi sous le régime de la double activité. Avec une propension justement à la sous-traitance parce que l'agriculteur ne peut plus non plus par souci de rentabilité. Enfin, on est dans un autre phénomène, je l'entends. Mais est-ce qu'on n'observe pas aussi? Est-ce que c'est pas, alors je sais pas si c'est un risque, pas un risque. Je suis pas là pour émettre un jugement là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène qui pourrait rentrer par cette porte-là, quelle que soit la taille de l'exploitation?
Alors, si je peux me permettre, parce que ça, c'est un sujet qu'on n'a pas réellement abordé. On a abordé la question de l'intégration de nouvelles fonctions, de nouveaux métiers, d'accord, sous l'angle ethnographique dans la grande entreprise. Ce que j'ai voulu signifier dans un premier temps, c'est que le nouveau capitalisme agricole, notamment en France, il s'exprime non seulement par une intégration, mais aussi une externalisation. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau capitalisme agricole, c'est non seulement une industrialisation, une rationalisation des outils productifs, mais ça peut être aussi une externalisation du travail productif. Et on voit bien que aujourd'hui émerge un certain nombre d'acteurs, et je dirais même que est en train de se mettre en place un marché de la sous-traitance agricole. Pourquoi? Parce que, soyons francs, le premier adversaire de l'exploitation agricole familiale, c'est la famille elle-même. Si vous voulez, l'exploitation agricole française n'a pas attendu la main du grand capital ou l'arrivée d'investisseurs étrangers ou des projets d'entreprise pour disparaître. On voit bien que le projet patrimonial prend le pas souvent sur le projet économique, et donc le recours à des acteurs qui prennent en charge tout ou partie du travail agricole renvoie à des approches immanquablement patrimonial et à ce qu'on va appeler un retour de la rente dans le secteur agricole. Donc la prédiction marxiste, effectivement, s'avère assez juste. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de dispositif de politique publique qui favorise la construction d'un projet économique porté par des acteurs familiaux, effectivement, il ne va pas de soi, ce projet agricole de type familial. C'est bel et bien une construction aussi. Bon. Et ça, c'est intéressant de voir qu'en France, le nouveau capitalisme agricole fait écho non seulement à un agrandissement de certaines entreprises de production agricole, mais ce que n'a pas dit aussi Loïc, c'est que le chef de culture dans ces grandes entreprises était souvent un enfant d'agriculteur dont les parents sont toujours peut-être dans l'exploitation, enfin pour lesquels les parents sont toujours sur l'exploitation et qui va travailler dans la grande entreprise. Donc effectivement, il y a des phénomènes d'hybridation et de coexistence et la petite exploitation de ce chef de culture est souvent même déléguée à la grande entreprise qui fait le travail pour le compte de la famille qui n'a plus même parfois le matériel. Donc, c'est intéressant quand même d'avoir à l'esprit deux choses. C'est que non seulement, alors, il faut quand même rappeler une chose, c'est que l'industrialisation du secteur agricole n'a pas attendu la grande entreprise agricole pour se mettre en place. L'industrialisation du secteur agricole a été le fait d'exploitations de taille moyenne intégrées. Ce qui est assez original aujourd'hui, c'est qu'on voit que ces grandes entreprises agricoles, elles intègrent des fonctions qui étaient jadis le fait des coopératives, comme l'a dit Loïc. Mais que l'industrialisation du secteur agricole repose aussi sur effectivement une externalisation de l'activité agricole parce que un certain nombre d'actifs familiaux disparaissent, mais que pour autant, les familles agricoles cherchent à maintenir leur position à l'échelle d'un certain nombre de territoires. Voilà. Donc, effectivement, cette tertiarisation, elle renvoie à des logiques d'approvisionnement qui sont le fait de certains industriels du secteur des fruits et légumes ou du légume industriel, mais c'est le fait, je le répète, des familles agricoles elles-mêmes. Et tu disais, Marie-Ange, que tu les voyais pas forcément, ces grandes entreprises, etc., mais pas très loin de Montpellier, la parcelle, elle dit pas son nom, mais elle peut être le fait, effectivement, d'un consortium d'entreprises et d'un dispositif complètement délégué ou intégré. Donc, effectivement, il n'y a pas une petite pancarte devant la parcelle de vigne ou même devant la terre qui est cultivée, mais c'est le fait parfois d'acteurs qui sont très loin du territoire exploité.
Oui, et c'est ce qui est aussi explicite dans votre chapitre, c'est que même la statistique invisibilise ce genre d'entreprise.
Parce que je pense qu'il faut quand même être très honnête, à la fois les pouvoirs publics, mais également, je dirais même les chercheurs dans leur ensemble, ont voulu nier à un moment donné le phénomène. C'est-à-dire que je pense que ça a arrangé tout le monde que de dire que tout était familial, et je pense que ça rassurait tout le monde. Et je pense qu'on s'interdisait même de poser certaines questions. Alors, l'appareil de statistiques agricoles aujourd'hui fait des efforts, cherche à s'améliorer. On voit que de nouvelles questions sont posées parce que des enquêtes empiriques poussent aussi l'appareil de statistiques à un moment donné à aller un peu plus loin. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, on n'a pas voulu voir, effectivement, ou affronter certaines réalités.
Juste si je pouvais rajouter un truc sur la question de la délégation, je pense qu'il y a deux types de délégation. Il y a tu me coupes François si je me trompe, mais moi ce que j'ai surtout étudié, c'est la question de la délégation du chef d'exploitation à un salarié dans l'entreprise agricole. Donc le chef d'exploitation est plus sur des travaux de lobbying ou d'aller contractualiser avec des nouveaux clients. Il est plus sur ses travaux, il est plus sur ça dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Et par contre, il délègue la question, par exemple, technique de la production ou la question du coup de la gestion de la main-d'œuvre totalement à un chef de culture. Il est plus du tout dans la... Enfin, très concrètement, il est plus tous les jours sur l'exploitation. Il délègue complètement cette partie de la gestion concrète de l'entreprise. Il est toujours chef d'exploitation, il est toujours chef d'entreprise, mais il le délègue à un chef de culture. Après, il y a effectivement la question de la délégation aussi de propriétaires derrière qui ont des exploitations qu'ils ne veulent pas et qui là le délèguent à un chef d'exploitation et pas à un chef de culture. Moi, j'étudie vraiment cette question-là de la délégation du travail.
Si vous voulez, je pense que le chef d'exploitation aujourd'hui peut déléguer en interne au sein d'une grande entreprise à la figure du chef de culture. Mais ce qu'on observe aussi avec Geneviève Nguyen, et on a publié dernièrement une note qui est parue, qui a été publiée par la cellule prospective du ministère de l'Agriculture, c'est qu'on peut déléguer aussi à des land managers. C'est-à-dire que non seulement l'orchestration de la production peut être le fait d'un nouveau pilote au sein de l'entreprise agricole, qui est le chef d'atelier ou le chef de culture, mais peut être délégué à des tiers qui agissent dans des entreprises qui ont un rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir que les processus qui ont été à l'œuvre jadis dans les secteurs industriels, eh bien, se développent aussi dans le secteur où on voit que une nouvelle orchestration se met en place à l'échelle des territoires. Et alors là, pour le coup, qui est complètement invisible de l'appareil de statistique, mais même parfois de la profession agricole.
Alors, on a une question d'Ève Fouilleux qui nous demande quelle est la part de responsabilité de la politique agricole commune dans la possibilité donnée à ces firmes de se développer, de s'agrandir, etc. Posé autrement, quelle est la part des aides PAC dans leurs chiffres d'affaires ou leurs revenus de ces exploitations?
Juste si je peux permettre, il y avait une question toujours d'être fouillé au-dessus. Il y avait une autre question au-dessus où on peut
Ah
répondre.
oui.
Je peux. Alors d'abord sur la question du lean management, du coup, puisque elle a été posée, c'est un ensemble de pratiques managériales bon, qui est pas si nouvelle que ça, mais on va dire apparaît dans les années 2000, qui vient. C'est la suite du toyotisme, quoi. Donc c'est un peu, par exemple, très concrètement, c'est l'idée de faire ce qu'ils appellent les 5 S. Donc tous les jours, on fait des petits points 5 minutes pour décider de ce qui a été bien fait la veille, ce qui a été mal fait la veille, la manière dont on va se dérouler la journée. C'est tout un tas de petites touches managériales qu'on va faire rentrer dans l'entreprise. Et donc il y a c'est tout un tas de petits trucs comme ça qu'on regroupe sous le terme de lean management. Et alors par rapport au travail politique de ces firmes agricoles, pour le coup, alors là je parle des entreprises que moi j'ai étudiées, une des caractéristiques de ces entreprises-là, c'est qu'elles essayent de s'autonomiser en fait de tout l'organisme, de toutes les organisations professionnelles agricoles qui gravitent autour et qui définissent pourtant bien le secteur agricole, donc FNSEA, enfin tous les syndicalismes agricoles, mais aussi la MSA, les chambres d'agriculture, etc. Elles s'autonomisent complètement de tout ça, et le discours porté par ces entreprises, c'est de dire elles sont toutes ces organisations professionnelles agricoles sont en retard, nous on est en avance sur elles, donc on fait sans elles, même si j'ai pu aussi aller enquêter des patrons qui autrefois possédaient une place importante au sein d'organisations professionnelles, notamment par exemple au Crédit Agricole ou encore notamment à la FNSEA. Mais en tout cas, l'idée, c'est aujourd'hui qu'ils s'en autonomisent complètement.
C'est intéressant de noter aussi, Loïc, c'est leur capacité à créer de nouvelles formes de collectifs, notamment autour des questions environnementales, c'est-à-dire qu'elles cherchent à construire de nouvelles formes de collectifs pour mieux être représentées et voire même contourner le ministère de l'Agriculture, c'est-à-dire que Bercy devient effectivement l'interlocuteur privilégié et la rue de Varenne est délaissée. C'est-à-dire que c'est assez intéressant de voir qu'il y a des stratégies d'ancrage et de désancrage et de contournement. C'est-à-dire qu'on va chercher aussi des alliés dans d'autres ministères que ceux qui sont des ministères pour lesquels on considère que ben, ce sont les ministères dédiés aux questions agricoles. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que elles ont la capacité de recruter même des hauts fonctionnaires à la retraite pour aller faire du lobbying à Bruxelles. Avec Loïc, on a mené un entretien avec un dirigeant d'une exploitation productrice de fruits et légumes qui nous disait qu'il était sur le point d'embaucher un ancien inspecteur général pour pouvoir justement appréhender au mieux la construction de la réglementation, et notamment européenne. Et donc, en fait, on ne s'appuie pas comme l'exploitant de taille moyenne ou même l'exploitant de grande taille ancré dans les réseaux syndicaux classiques sur le syndicat, hein, on cherche à recruter même d'anciens fonctionnaires ou des consultants privés pour essayer d'anticiper la construction de la norme et notamment de la norme européenne.
Et puis après, ce qui est assez intéressant. Pardon, pardon, pardon.
Pardon, non, je voulais juste voir si Yves Fouillot voulait peut-être ouvrir le micro et réagir pour aux réponses qui ont été apportées à ces questions. Si vous voulez prendre la parole.
Oui,
Et si
enfin,
je...
non, je trouvais
Voilà.
très, très intéressantes les réponses à mes questions. J'ai la réponse de François par rapport au fait qu'ils s'organisent pour embaucher des anciens hauts fonctionnaires pour aller peser à Bruxelles. Ça me rappelle par exemple l'expérience de Breseurop, qui est donc l'organisation de l'industrie agroalimentaire bretonne pour peser sur les décisions à Bruxelles. Mais là, ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'ils le font en tant qu'entreprise individuelle, j'ai bien compris. Ça, c'est vraiment encore plus hallucinant, mais bon.
À l'échelle d'un groupe, alors c'est pas, alors en fait ces entreprises qu'on étudie sont souvent des holdings dans lesquelles en fait qui reposent sur plusieurs SCEA, plusieurs sociétés civiles d'exploitation agricole, dans lesquelles il y a même plus forcément de matériel agricole puisque souvent il y a une entreprise de prestation qui fait le travail. Donc c'est à l'échelle de ce qu'on va appeler le groupe de SCEA. Alors, à la tête de chacune des SCEA, il y a un membre d'une famille, mais ces membres de chacune des familles, en fait, n'exploitent rien du tout, ne montent jamais sur le tracteur. Donc, effectivement, c'est à l'échelle effectivement, d'un consortium d'exploitation agricole.
Ok, merci, merci beaucoup.
Gaëla, tu avais une question également.
Oui, c'était plus sur les profils. Enfin, en fait, j'avais une question un peu générale, quoi, sur la transition entre justement ce modèle plus familial et donc entrepreneurial, enfin, de grande entreprise. Enfin, comment, par quelles étapes c'est passé tout ça, sur quelle période. Enfin, je veux dire, il y a quand même. Donc là, on comprend quand même des logiques là dans ce que vous décrivez. C'est d'ailleurs très intéressant. Et donc moi, je m'interrogeais aussi la place qu'ils peuvent prendre aujourd'hui. Tous ces acteurs dans le monde de la formation, quoi, parce que du coup c'est aussi un débouché. Ou ben, j'avais plein de questions aussi sur les saisonniers, parce que alors, du coup on se rend compte dans certaines exploitations qu'ils occupent une place très très importante. Donc est-ce qu'ils sont formés en interne, comment, ou est-ce que c'est négligé ou pas, cette question de la formation? Voilà, c'était un peu le ce type de questions que j'avais.
Tu veux répondre, j'y vais.
Vas-y, sur la formation.
Sur les profils. Ouais, alors sur les profils des chefs de culture et sur la formation, sur les profils des chefs de culture dans ces entreprises agricoles-là, j'ai distingué deux idéotypes, c'est-à-dire le jeune, parce que c'est un groupe très très masculin, le jeune chef de culture ingénieur, donc passé par une école d'ingé agri ou agro, surtout souvent agri, mais par une école d'ingénieur, socialisé à tout ce que j'appelle du coup le lead management, socialisé à l'agriculture à grande échelle, qui sont souvent passés par des stages à l'étranger, aux États-Unis, dans de grandes entreprises agricoles à l'étranger, qui sont fils d'agriculteurs. Et qui soit sont des cadets de la famille et qui ne peuvent pas reprendre l'exploitation familiale parce qu'elle est réservée à l'aîné, ou alors qui sont sur des exploitations familiales qui ne peuvent pas, où il n'y a pas de reprise parce que l'entreprise agricole familiale fait faillite ou a fait faillite. Et puis un deuxième idéal type qui est le chef de culture plus âgé, ancien chef d'exploitation, qui a fait faillite. Et en fait, ce que disait François tout à l'heure, c'est-à-dire que la grande entreprise agricole va racheter l'entreprise agricole qui a fait faillite, intégrer l'ancien chef d'exploitation de l'exploitation agricole et le salarié en tant que chef de culture. Donc il y a plus ou moins ces deux profils, mais ce sont toutes des fils ou des filles. Alors il y avait deux filles sur l'ensemble des chefs de culture que j'ai enquêté, toutes et tous des filles et des fils d'agriculteurs. Tous sont issus du milieu agricole et la nouvelle génération passe par des écoles, alors pas tous, mais en majorité passe par des écoles d'ingénieurs, donc à un niveau master. Et justement, comment est réglée la question de la formation des nouveaux par rapport à cette question de la formation? On a étudié avec Cécile Gazot, une autre doctorante, la question des référentiels de diplômes, des diplômes qui visent au métier de chef de culture. Donc les BTS et les bac pro, par exemple le bac pro, les BTS production horticole, les bac pro et les BTS AXE, donc qui forment en fait les futurs agriculteurs et chefs de culture. Et ce qu'on a pu voir en fait autour de la formation, c'était un travail de la profession, puisque pour résumer, la formation, la question de la formation agricole, il y a le diplôme se divise en trois parties, on va dire, et la première partie, il y a une concertation entre les acteurs de la formation et la profession. Donc la profession tous ces gens-là se mettent autour de la table pour décider de quelle visée on va donner au diplôme, quelles compétences on va leur donner, etc. Et il y a eu tout un travail de la profession fait pour justement accentuer donc les questions de prise en compte environnementale, mais surtout de ce que je disais tout à l'heure, cette question de la gestionnalisation, toutes ces questions de lead management là dans la formation. Donc il y a une évolution des diplômes vers ça et vers ce que j'ai appelé aussi c'est pas moi qui l'ai appelé, mais l'intensification écologique, c'est-à-dire l'idée que on reste quand même sur du rendement maximum, mais tout en intégrant des logiques environnementales.
Ouais, dans votre présentation, à un moment donné, il y avait quelque chose qui m'a marqué. Vous n'êtes pas tellement arrêté dessus. C'était une citation d'entretien et je me suis posé la question justement de la transformation des représentations du métier. Parce qu'on voit à un moment donné, si je comprends bien, en fait, en gros, l'idée c'est de dire, en fait, nous on est super organisés et on n'a pas trop les mains dans la merde, quoi. C'est un peu, j'ai cru voir ce type. Et donc du coup, je me demande s'il n'y a pas aussi, comme vous dites, en fait, des initiatives initiatives pour vraiment transformer aussi l'image peut-être de la profession et du milieu lui-même, quoi. Et c'est intéressant que tous viennent du milieu agricole, puisque ça veut dire qu'il y a un vrai capital qui est constitué donc sur le tas en même temps, et que tout ça c'est entre guillemets un peu délavé, j'ai envie de dire, enfin je sais pas comment dire, mais un peu atténué, disons, par le ce qu'ils cherchent à valoriser dans le mode productif intensif, quoi. Voilà, mais merci pour votre réponse en tout cas.
Alors, il n'empêche qu'il y a énormément de difficultés dans le recrutement, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ces fonctions-là, enfin, c'est, si vous voulez, il y a une demande hein, autour de ces métiers, mais on a des entreprises ou des chefs d'entreprise qui sont à la peine pour recruter. Pourquoi ? Parce qu'on recrute encore des enfants, comme le disait très bien Loïc, des enfants d'agriculteurs qui se sont arrachés à cette exploitation, qu'ils espéraient et qu'ils espèrent parfois toujours reprendre. Donc, effectivement, il faut faire le deuil du travail indépendant, du travail de chef d'exploitation. Et effectivement, il y a des processus de retour ou d'abandon de la fonction de chef de culture. Donc, tout l'enjeu, effectivement, tient à fidéliser aussi ces chefs de culture qui importent avec eux aussi une certaine façon d'organiser le travail qui est l'émanation de ce qu'ils ont appris avec leurs parents. Bon. Tout comme les patrons que moi, je regarde de plus près, hein, puisque je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais si Loïc regarde les chefs de culture, moi, je regarde plutôt les patrons, et c'est au moment où on réalise notamment les premiers entretiens avec ces grands patrons que Loïc se fixe dans l'entreprise. On voit bien que ces patrons eux-mêmes ont des difficultés à appréhender ce qu'est le salarié manager, puisque la référence au fils ne cesse d'apparaître comme une référence fondamentale. C'est-à-dire que ils ont du mal aussi, même s'ils aspirent à être des grands patrons, à s'arracher de la figure du père, auquel ils sont quand même assez attachés d'une certaine manière. Voilà. Donc, ce qu'on raconte comme histoire, c'est l'histoire d'un arrachement, c'est l'histoire d'un détachement, et ça se fait avec des frottements, ça se caractérise par des frottements, des tensions, comme le disait Loïc. Donc, en France, vous parliez tout à l'heure de ce qui a pu expliquer à un moment donné ces basculements, ces arrachements. Ce sont des dispositifs de politique publique, ce sont effectivement des incantations, des discours politiques ou professionnels hein, qui ont pu conduire à vouloir embrasser les habits du chef d'entreprise et de la grande entreprise. C'est de toute façon une réalité démographique qui fait que ben voilà, on a de moins en moins d'actifs agricoles de type familiaux dans les exploitations qui assurent le travail. Et donc, la nécessité de réorganiser l'organisation productive, elle s'est imposée au fil du temps. Sans compter les importations, hein, Loïc le montre très bien dans sa thèse, hein, tu n'en as pas parlé, mais tu pourras en parler, hein, mais des modèles post-coloniaux, notamment dans la filière fruits et légumes, des façons de considérer ou de concevoir le travail emprunté à ce qui se faisait jadis au Maghreb ou ailleurs. Donc, on a bien vu s'installer aussi, notamment en bas Languedoc, des entreprises qui ont importé aussi des façons de manager, d'organiser le travail de ces pays-là ou de ces entreprises dans lesquelles ces chefs d'entreprise avaient pu évoluer. Donc, en fait, les inspirations sont multiples, sans compter effectivement les voyages auxquels on convie des chefs d'exploitation familiaux, entre guillemets, pour pouvoir investir à l'étranger, puisque il y a aussi des organisations qui sont mises en place pour donner de l'inspiration, entre guillemets, à ces exploitants familiaux qui sont invités à s'arracher de leur modèle.
Sur la PAC, François, peut-être que tu peux répondre, parce que il y a une question sur la PAC, toujours des fouilleux sur la part des aides PAC, etc.
Alors, par rapport peut-être à la sous-traitance ou à la prestation, alors ce qu'on a, effectivement, on peut penser que notamment le recours à des prestataires et à des entreprises de sous-traitance est un produit inattendu de la politique agricole commune. Dans la note, dans l'article qu'on a publié dernièrement, on voit bien qu'il y a une inversion des courbes. Vous savez que l'organisation du travail en agriculture est souvent prise en charge par ce qu'on appelle historiquement le PUMA, les coopératives d'utilisation du matériel en commun. On s'est rendu compte qu'à partir de 1995, jusqu'au sortir de la première réforme, enfin d'une des réformes de la politique agricole commune, hein, je suis pas un spécialiste de cette question-là, mais il y a eu une inversion des courbes de création des entreprises de travaux versus des CUMA. celles-ci, voyant leur nombre de créations s'effondrer au profit d'un nombre toujours croissant d'entreprises de travaux. Donc effectivement, les aides à l'hectare ont pu contribuer à un moment donné à renforcer des logiques de rente. Donc oui, on peut considérer que d'une certaine manière, des dispositifs de politique publique en agriculture ont pu contribuer à ce qu'on va appeler la tertiarisation de l'activité productive agricole, mais des dispositifs aussi de défiscalisation ont pu favoriser la création d'entreprises de travaux, et ce sont les agriculteurs eux-mêmes hein, qui sont les premiers prestataires de services. Hein. On oublie de le dire, mais les exploitants agricoles sont ceux qui font le plus souvent du travail aussi pour leurs voisins. Hein. Alors ça se fait au black, mais ça peut se faire aussi via une entreprise agricole. Et puis on voit bien que c'est pas que ça, c'est aussi des changements de préférences dans les familles. Je le disais tout à l'heure, et moi je pense qu'il faut quand même l'admettre volontiers, la famille est la première adversaire de l'exploitation agricole familiale. Il faut appeler un chat un chat. C'est ni la PAC, ni les prestataires de services, ni les grands investisseurs qui font que les gamins ne reprennent pas les exploitations agricoles. On a des approches patrimoniales qui prennent le pas sur la désignation d'un successeur et le fait qu'on a des collatéraux aujourd'hui qui n'acceptent pas de faire des sacrifices à partir du moment où... et c'est ça qui a présidé quand même à la résilience du modèle familial. C'est parce que on bricolait, parce que les grands-parents travaillaient sur l'exploit, parce que on ne prélevait pas l'argent qu'on devait prélever. Et aujourd'hui, effectivement, dans certaines familles, ce n'est plus toléré par un certain nombre de collatéraux qui préfèrent voir disparaître l'exploitation agricole ou la déléguer plutôt que de voir l'un des enfants reprendre l'exploitation. Donc, je pense que, pour le coup, les politiques de gauche comme de droite font fausse route souvent en ne mettant pas le doigt sur, selon moi, la première raison de la fin d'une forme d'agriculture familiale, c'est la famille elle-même. Et un changement de préférence profond dans des familles. Et alors, je ne parle pas que des grandes exploitations, mais même des toutes petites exploitations qui ne trouvent pas de repreneurs parce que les familles préfèrent préserver un patrimoine et non pas installer un jeune.
Et pour la question de la PAC très très concrète, c'est que la question de la PAC dans les fruits et légumes est assez particulière parce que en fait les seuls qui peuvent toucher des sous de la PAC, ce sont ceux qui sont rattachés en fait directement à une OP. Donc c'est pas le cas de toutes les entreprises de fruits et légumes qu'on étudie. Donc c'est pour le cas des entreprises que j'ai étudiées, c'est zéro la question de la PAC dans la comptabilité vraiment de la grande entreprise agricole. Mais ça c'est spécifique aux fruits et légumes. Après justement, ce serait intéressant d'aller voir cette question-là dans les entreprises d'autres secteurs, enfin d'autres filières, pardon.
Petite remarque, il y a juste une question qui est apparue, une remarque sur pas toutes. Effectivement, pas toutes. Effectivement, il y a de la résilience. Effectivement, il y a des familles effectivement qui cherchent à installer. Mais quand on regarde des tendances lourdes, ces entreprises qui cherchent effectivement à résister. Mais moi aussi, je suis agriculteur et tous les dimanches, je cherche à faire perdurer une exploitation familiale, pour tout vous dire. Mais je pense que les choix que certains font, vous en êtes peut-être, j'en suis aussi, ne sont pas des choix qui effectivement prévalent partout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire je pense qu'il faut arriver à sortir du cas particulier, c'est pour ça que je fais ce métier-là, et s'abstraire aussi de contingences très personnelles pour regarder la réalité en face. Moi, ce qui me paraît intéressant, c'est d'observer des tendances lourdes. Et effectivement, ce que on voit, c'est que effectivement, ça résiste par endroits, mais ça ne résiste plus par d'autres. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que les sacrifices qui sont consentis par certains ne sont pas si répandus que ça. Voilà. Et c'est pour ça que l'INSEE, encore dernièrement, annonce un chiffre de 1,7% de chefs d'exploitation agricole en 2020. Et c'est ça qui est quand même à observer. C'est-à-dire que on ne cesse de voir le nombre de chefs d'exploitation s'effacer. Et c'est pour ça que je pense que on a aussi tout intérêt à regarder de près, Marie-Ange, tu en parlais, ce que font les plus réactifs et l'importance que va revêtir la plus réactivité demain pour préserver effectivement des outils de production. Et c'est vrai que si, donc là, je prends une autre casquette, si effectivement on s'enferme sur ces questions de statut et si on ne cherche qu'à préserver des petits patrons chefs d'exploitation, effectivement, on verra disparaître un certain nombre d'exploitations agricoles. Et c'est vrai que la question qui est posée derrière tous ces travaux est de savoir si on peut imaginer des organisations productives agricoles qui reposent peut-être aussi sur d'autres formes d'organisation productive qui ne se résument pas au statut de chef d'exploitation. Parce que ce statut de chef d'exploitation, on le voit, s'efface.
Il y a des trucs très intéressants. Enfin, pardon, allez-y.
Oui, par rapport aux questions qui sont, oui, qui sont posées. Voilà, mais j'allais donner la parole justement à Emmanuelle Cancé, qui est, que je connais, qui est enseignante en lycée agricole. Emmanuelle, si tu veux bien poser ta question.
Oui, bonsoir. Merci pour la présentation que vous nous avez donnée. C'était très intéressant. Alors, je connais pas très bien tout, des fois, le jargon que vous utilisez, mais en tout cas, ça m'intéresse parce que je suis au contact d'élèves donc qui sont soit des fils d'agriculteurs, soit des jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole, mais qui veulent l'intégrer. Et justement, par rapport, alors je veux pas trop parler par rapport à la taille des entreprises, vous avez bien décrit ça, et bon, voilà, mais plus par rapport à ce modèle familial dont vous avez parlé, qui peut-être est en train de se perdre, ou en tout cas de ne pas se perpétuer dans toutes les entreprises comme ça se faisait avant, peut-être avec plus de dilution maintenant et avec l'introduction de personnes extérieures à la famille. Mais est-ce que dans ce sens-là, c'est pas une bonne chose vis-à-vis de ces entreprises, de leur évolution en termes social aussi? Je suis pas du tout fille d'agriculteur, donc c'est vraiment avec un aspect très extérieur que je vois ça, par le prisme de ce que je peux observer avec mes élèves, pour lesquels ceux qui sont fils d'agriculteurs ne partent pas toujours avec tant de chances que ça d'être issus du milieu agricole, finalement.
Ah, vous avez parfaitement raison. On n'assiste pas à une disparition de l'exploitation agricole de type familial. On l'a bien montré avec Pierre Gasselin dans un ouvrage avec Sandrine Petit et Choisy. On assiste à une recomposition des formes d'organisation du travail en famille. Et aujourd'hui, on voit bien que on a des apporteurs de capitaux de type familiaux, mais le travail ne se fait plus en famille tel qu'on l'a imaginé selon un certain modèle. Et vous avez tout à fait raison de souligner une chose, c'est que si effectivement les cédants ne trouvent pas forcément de repreneurs, c'est parce que certains repreneurs, fils d'agriculteurs ou pas fils d'agriculteurs, ne souhaitent pas forcément mettre leurs pas dans les pas de leurs parents ou du cédant. Et que la famille en agriculture est un lieu d'oppression aussi, il faut quand même le dire. La famille, on l'idéalise dans le secteur agricole, mais c'est un terrible lieu d'oppression, c'est un terrible lieu d'assignation, ou du moins ça l'a été pendant très longtemps, et ce qui explique aussi les difficultés pour ce modèle de perdurer. Mais si la famille agricole se recompose, comme on le voit, et quand on voit apparaître ces nouveaux collectifs qui reposent sur du capital familial et même de nouvelles trajectoires familiales, on peut imaginer que effectivement certaines formes d'exploitation vont pouvoir perdurer. Mais si effectivement l'agriculture familiale n'est que la simple reproduction d'un schéma aliénant, effectivement on pleurera tous les jours de la disparition des exploitations agricoles, mais il faut quand même comprendre une chose, c'est que la plupart des jeunes qui décident de rentrer dans ce métier, qui est un métier qui attire encore aujourd'hui beaucoup, n'ont pas envie d'être assignés à une fonction, un métier, une vie sexuelle ou une vie familiale telle que le père ou la mère l'ont dicté. C'est peut-être aussi ça le problème de l'agriculture.
Je suis assez d'accord avec François sur la question de la famille, l'alignation, mais je voulais aussi dire que par exemple pour avoir étudié du coup, pour avoir travaillé dans ces grandes entreprises agricoles là, le modèle de la grande entreprise agricole reproduit aussi des schémas aliénants, pas forcément pour le coup sur les chefs de culture, mais sur par exemple les ouvriers. Et voilà, il y a tout un, ben, j'ai écrit tout un passage sur la question de l'organisation du travail. et une organisation du travail que j'ai décrite comme raciale, genrée et raciale et genrée, et c'est dans des proportions. Vu que c'est des grandes entreprises agricoles avec du coup de grandes équipes, donc ce sont des processus qui se reproduisent du coup à ces échelles-là aussi. Donc certes, la famille est aliénante, mais la grande entreprise agricole peut l'être aussi. Elle n'est pas que synonyme en tout cas, elle peut reproduire des schémas aussi de domination et d'aliénation de la sorte. Voilà, c'est ce que. Mais après, je suis assez d'accord sur l'idée de la question de la famille et de ce qu'on a pu en dire et de la fausse image. Mais voilà.
Eve Fouilleux, vous vouliez rebondir sur les initiatives de l'association Terre de Liens, justement.
Non, c'était par rapport à une réponse qui a été faite tout à l'heure autour du fait que, je ne sais plus, enfin, qu'il y avait effectivement... que c'était, enfin, je sais plus à quel moment ça a fait penser. Il y a quand même un modèle, je sais pas s'il faut seulement opposer modèle d'agriculture familiale et agriculture de firme, mais peut-être poser, pour sortir de ce problème, effectivement, de la question de l'aliénation et de l'idéalisation de la famille qui est effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord, qui est très, très prégnante à la fois chez les scientifiques ou chez les hommes politiques de gauche et de droite. Il y a vraiment cette idéalisation de l'agriculture familiale. Et donc, peut-être pour sortir de cette ornière, essayer de penser plutôt des questions en termes de type de modèle agricole, en termes de taille ou en termes de type de techniques agricoles qui sont employées. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même des modèles un peu alternatifs à cette tendance lourde qui est décrite là vers... des agrandissements et des financiarisation, capitalisation, etc., comme il le décrit très très bien dans ces travaux-là, avec par exemple le modèle Terre de Liens qui essaye de sortir de la tendance inéluctable à l'agrandissement des exploitations et à dépasser cette difficulté qui était décrite par François, voilà, c'est ça, de transmettre les exploitations, puisque effectivement il y a des gens qui n'arrivent pas à transmettre les exploitations du fait de tout un tas de choses qui sont sans doute très bien étudiées en sociologie. Et donc il y a quand même des initiatives qui essayent de soutenir une tendance différente. Donc je trouve que c'est vraiment tout à fait le pendant de ce qui se passe, c'est complètement différent, mais c'est peut-être important de le souligner quand même. Il y a une volonté à la fois de transmettre des modèles différents et de faciliter des nouveaux entrants en agriculture qui sont pas dans ces schémas d'aliénation-là, qui portent de nouvelles visions.
Oui, voilà. C'est tout à fait juste. Et puis, on voit bien émerger, je suis passé un peu rapidement dans la typologie, hein, 20% d'exploitation de type familial classique, 30% d'exploitation gérée par des hommes seuls. On a 8% d'exploitation qui sont pilotées par de nouvelles formes de collectifs. Alors, ça peut être des GAEC, des formes traditionnelles, mais ça peut être d'autres formes de collectifs comme on peut le retrouver dans des initiatives portées aussi ou soutenues par Terre de Liens. Mais ce qui me paraît être intéressant, mais là, je sors un peu de mon rôle, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir qu'on a du mal à penser, je dirais, plus largement les métiers du salariat. C'est-à-dire que je pense que si, effectivement, le salariat n'est pas pensé ni par les politiques, ni par les universitaires dans ce secteur-là, ou du moins de manière... comme une catégorie à prendre en considération, on n'en sortira pas. Enfin, je pense que si on ne cherche qu'à installer ou à voir reprendre des exploitations uniquement à travers la figure du chef d'exploitation, on ne contribuera pas au maintien des exploitations agricoles, même sous des formes collectives. C'est-à-dire, je pense que ces nouveaux collectifs qui peuvent émerger passent peut-être aussi non pas par l'installation au sens installation de chef d'exploitation, mais insertion dans des collectifs en prenant la casquette, pas forcément de l'associé collaborateur. Je sais pas si je suis très clair, mais je pense que ce qu'on donne à voir, c'est l'émergence effectivement de métiers qui sont portés par des grandes entreprises, etc., et des formes de salariat qu'on retrouve dans des secteurs industriels et commerciaux. Et je pense que pour que certaines entreprises, même de taille plus petite ou moyenne, soient préservées, il va falloir imaginer peut-être aussi ce que pourraient être de nouvelles formes de salariat permettant effectivement l'insertion et non pas forcément l'acquisition dans ces entreprises. Voilà. Et je trouve que c'est, il y a un vrai débat. Il faudrait pas considérer que mettre la focale sur ces grandes entreprises constitue pour nous l'occasion de légitimer une forme ou une autre. Ce qu'on constate, c'est que il n'y a jamais eu autant de très grandes entreprises et de très petites exploitations, mais que quand même, au bout du bout, c'est l'exploitation de taille moyenne qui a constitué un modèle qui s'efface beaucoup plus rapidement même que la très petite, voilà, et qui laisse place à la grande. Donc c'est ça qui est intéressant à souligner, c'est comment on fait tenir cet écartèlement.
Et pour rebondir juste là-dessus, on a une collègue doctorante de François, Cécile Gazot, qui bosse sur du coup sa thèse sur les différents nouveaux entre guillemets dispositifs d'installation portés par diverses organisations professionnelles agricoles, mais même pas que. Par exemple, la dernière fois qu'elle me dit, elle parlait d'un dispositif lancé par un joueur de rugby qui rachète des vignobles collectivement en fait. Hein. Tout le monde a une part du vignoble, etc. Et ce sont des gens qui sont pas du monde agricole. Ce sont des gens, par exemple, là pour le coup, du monde du rugby. Il y a plein d'initiatives hors et dans le milieu agricole, mais son discours aussi, c'était quand même c'est un peu à la marge et les dispositifs d'installation classiques, dotation jeunes agriculteurs, etc. restent quand même plus ou moins centraux, quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle disait, mais effectivement, il y a tout un tas d'initiatives qui existent pour installer des jeunes hors cadre familiaux, etc.
C'est intéressant ce que tu soulignes, Loïc, parce que ça me fait penser aussi à une chose qu'on n'a pas, nous, étudié frontalement, c'est le business de la micro-ferme hein, et de la petite agriculture, parce que on parle de la très grande agriculture, mais il y a tout un business, tout un marché du dispositif à l'installation, hein. C'est-à-dire que face à l'incapacité des dispositifs de politique publique à accompagner l'installation, on voit que à côté de la promotion de la grande exploitation agricole, existent aujourd'hui de nouvelles entreprises qui vont faire de la très petite entreprise et de la micro-ferme un marché comme un autre et un business comme un autre. Donc, je pense que on l'a pas dit tout à l'heure, mais le nouveau capitalisme agricole, ça peut être aussi ça, c'est-à-dire ça peut être incarné par des investisseurs qui vont faire le choix de miser sur plein de petites fermes au même moment. Donc le nouveau capitalisme agricole, c'est non seulement la grande entreprise agricole, mais ça peut être l'investisseur qui va jouer de l'installation sur des petites fermes un peu partout sur le territoire. Je pense qu'il faut quand même être assez perspicace et bien regarder ce qui est en train de se passer, mais c'est les deux bouts de l'éclatement des structures d'exploitation qui incarnent en fait assez bien le nouveau capitalisme agricole.
Mais pour rebondir là-dessus, François, est-ce qu'il n'y a pas justement des stratégies pour maintenir ces petites et ces micro-exploitations à l'intraveineuse par de potentiels concurrents? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas justement
Le risque, c'est qu'on fasse de la micro-ferme un business et qu'on laisse mourir les petites fermes. Et je fais une nette différence entre la micro-ferme et la petite ferme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petites fermes qui risquent de disparaître. Et par contre, on vante les mérites de la micro, qui est une construction hein, aussi, qui est à la mode, hein, mais qui a sa pertinence parfois, mais qui ne... Si vous voulez, les réponses qu'on apporte à travers le discours sur la micro-ferme ne sont pas que des réponses aux questions et aux problèmes de la petite ferme. Je ne sais pas si je suis très clair, mais vous avez des petites fermes qui sont tenues par des couples exploitants agricoles sur des dizaines d'hectares, enfin, entre 10, 20 ou 30 hectares, qui sont sur le point de disparaître au moment même où on va idéaliser et faire de la micro-ferme, effectivement, l'alpha et l'oméga de l'installation en agriculture. C'est ce que je disais par rapport au business de la micro-ferme. C'est-à-dire que au moment où on fait de la micro-ferme un business, on voit disparaître, par contre, des petites fermes. Et je pense que dans l'esprit des gens, il y a une confusion qui s'est installée entre petites fermes, micro-fermes, et on mélange tout, et en mélangeant tout, on n'apporte pas de réponse à la petite ferme qui est la petite exploitation située, je sais pas moi, dans les Cévennes ou en Auvergne, etc., qui elle est effectivement en situation de danger sur le plan économique et social.
Jennifer, tu voulais également poser une question. Je te laisse prendre le micro.
Oui, c'était juste pour savoir si vous aviez... Alors déjà, merci vraiment pour votre présentation et puis les échanges aussi là qu'on a en ce moment. C'était juste pour savoir en fait si vous aviez fait des retours de votre travail auprès de certains des acteurs que vous aviez interrogés et quels ont été ces retours si ça a été le cas.
Ben, on en fait assez souvent. Enfin, sur la question de la sous-traitance, effectivement, c'est une question qui... et notamment de la tertiarisation du secteur qui titille énormément la profession, hein, de la Confédération paysanne à la FNSEA, toutes les organisations syndicales sont vent debout pour dire il faut lutter contre effectivement la prestation de services, etc. Mais les retours ou les échanges qu'on a nous laissent à penser qu'ils ne nient plus le phénomène, par contre, parce qu'ils le portent même. De la très petite à la très grande exploitation, un certain nombre d'agriculteurs font de la prestation eux-mêmes pour le compte de leurs voisins. Donc, il y a une prise de conscience de certains phénomènes, même si, effectivement, on cherche toujours à se l'interdire. Il y a des réalités, effectivement, qui font face et auxquelles sont confrontées aujourd'hui les organisations professionnelles. Ensuite, par rapport aux grandes entreprises agricoles, certaines... ont eu tendance, ben, tu me diras Loïc, à se méfier dans un premier temps de nous et ensuite à considérer que c'était intéressant pour elles aussi d'entendre un discours plus académique sur les formes d'organisation qu'elles développaient. Un jour, une dirigeante d'entreprise m'a dit « Ah, mais vous mettez un nom sur ce que nous sommes. » et en fait... Je me souviens très bien du moment où on est arrivé avec Loïc dans l'entreprise et je vois l'ouvrage posé sur l'ouvrage que vous avez vu tout à l'heure en illustration, posé sur le bureau. Et là, je me suis dit, mais ça va très mal se passer pour nous parce que on a utilisé vraiment des mots qu'il fallait pas utiliser et qui vont peut-être heurter. Et en fait, on s'est rendu compte que, d'une certaine manière, poser un nom sur des réalités pouvait être considéré comme pas forcément inintéressant pour les observer. Mais malgré tout, on voit bien que la profession, même le syndicalisme majoritaire, a toujours eu tendance à nous dire « mais ce que vous montrez là n'existe pas chez nous ». Souvent, quand on fait des retours... devant les professionnels ou même devant certains collègues chercheurs, c'est de nous dire « Ah, mais de toute façon, ce que vous observez n'est qu'une minorité, c'est pas répandu. » Donc, on a souvent quand même ce discours-là de la négation, c'est-à-dire que ça ne pourrait pas advenir en France. C'est-à-dire que non, c'est une réalité, mais qui relève de l'ailleurs.
Ouais, et puis après, effectivement, à chaque immersion, je faisais un retour sur ce que... sur ce que j'avais vu, etc. Bon, après, je choisissais effectivement ce que je montrais, quoi. Je montrais pas tout. Il y avait des points que je soulevais pas et d'autres que je présentais. Après, le retour des chefs de culture, précisément, puisque moi, c'est surtout eux qui m'intéressaient, c'était un regard sur la question de la déstabilisation. Souvent, ça revenait avec l'idée qu'effectivement, bon, un peu comme François, quoi, de mettre plus ou moins des mots, entre guillemets, quoi, sur ce qu'ils pouvaient vivre, entre guillemets, voilà. Mais après, bon, pour le coup, par exemple, c'est vrai que les retours que je faisais pour se rester très c'était très politiquement correct, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais j'abordais pas tout était pas abordé quand je faisais des retours parce que souvent ça se passait dans une salle avec à la fois le patron, les salariés, etc. Et puis bon, il y avait des choses que je pouvais pas évoquer, tout simplement parce que c'était du cadre de l'ANCT en entretien face à face. Enfin, il y avait des choses que effectivement je conserve, enfin, je gardais pour moi, quoi. Mais globalement, c'était après, j'ai eu beaucoup de discussions autour de qu'est-ce qui vous intéresse, quoi. Pourquoi est-ce que l'agriculture ça vous intéresse? Pourquoi le métier de l'agriculture ça vous intéresse? Là, je fais que travailler des plantes, alors je comprends pas pourquoi vous nous étudiez depuis 4 ans. Enfin voilà, il y avait pas mal de trucs comme ça, un peu de dévalorisation autour de leur métier, des choses comme ça, mais après, c'était des retours toujours plus ou moins positifs, mais il y a toujours eu un retour à chaque fois sur chaque immersion à la fin.
Merci beaucoup pour vos réponses.
Gaëla, tu souhaitais prendre la parole.
Oui, après je, ben en fait, oui, moi pour moi en fait, le monde agricole, il s'est quand même constitué aussi autour des formes de coopération. Et du coup, j'ai trouvé vachement intéressant ce que vous disiez là justement sur l'intégration, le modèle intégré. Est-ce que ça a pas en fait absorbé en fait toute une économie quoi du monde rural aussi. Enfin c'est ça en fait moi qui m'interpelle un petit peu dans ce que vous présentez. Donc il y a la firme, il y a le modèle, il y a voilà cette ferme qui devient, qui grossit, etc. Mais ça impacte aussi l'environnement du monde rural quoi. Je pense. Enfin voilà. Et je pense que le modèle coopératif c'est ce que enfin, il persiste peut-être justement avec des initiatives comme Terre de Liens, quoi, d'une certaine façon, quoi. Donc, il y a aussi, voilà, sans vouloir être dans l'angélisme, hein, mais il y a quand même aussi des valeurs, je pense, autour de la coopération, voilà, qui persistent, qui me semblent intéressantes quand même à mettre en évidence, quoi, dans ce milieu-là. C'est une des plus-values, c'est ce qui fait qu'on s'attache à ce modèle, je pense, dans les représentations de tout ce que vous décrivez, hein. Voilà.
C'est très juste ce que vous dites, hein. C'est-à-dire que le faire ensemble est constitutif de l'évolution de l'économie agricole. Je pense que s'il n'y avait pas eu le faire ensemble, l'organisation collective sous forme de coopérative d'appro, de stockage, de matériel en commun, effectivement, l'évolution du monde agricole n'aurait pas connu les évolutions qu'on a pu étudier. Alors, si nous, on s'est intéressé à d'autres formes, c'est parce qu'on considérait que la littérature mettait souvent l'accent là-dessus. Qu'on avait besoin d'aller voir justement ce qui déstabilisait le faire ensemble et les formes du faire ensemble traditionnel. Mais c'était pas de dire qu'il n'y avait plus de faire ensemble. Mais c'est vrai que ce qu'on constate à travers notamment l'émergence de la tertiarisation de l'activité productive, c'est que on passe parfois du faire ensemble au faire faire. Et que le faire ensemble est discuté. Et que le faire ensemble prend des formes qui ont profondément changé. Et que faire ensemble et faire faire sont parfois les deux facettes d'une même réalité. Quand on discute aujourd'hui avec un représentant de CUMA, il va vous dire ben, qu'il utilise sa propre CUMA pour laquelle il est président et une entreprise de prestation pour faire une partie des travaux. Mais que, en fait, le faire ensemble qui était caractéristique de ce que faisait son père ne prévaut pas forcément pour lui. C'est-à-dire que, en fait, il y avait des logiques du faire ensemble d'hier qui ne fonctionnent plus complètement. Enfin, si aujourd'hui, certains jeunes agriculteurs, notamment nous, on a rencontré avec Geneviève dans le Morbihan des éleveurs qui nous disaient vouloir déléguer l'intégralité de la partie culture à une entreprise de prestation. C'est parce que, alors là, pour le coup, les politiques agricoles et la libéralisation des marchés les conduisent à être beaucoup plus performants sur l'atelier lait, hein, donc ils peuvent, et ils sont seuls sur l'exploit. Et les gars nous disaient, mais moi, si je pars, j'ai pas ma femme ou mon gamin pour me remplacer au moment où je vais à la réunion pour la CUMA ou la COP, quoi. Donc, il me disait, mais François, moi, si j'ai recours à un prestataire, c'est parce que les formes du faire ensemble telles qu'elles existaient jadis, enfin, elles ne correspondent pas forcément à mon organisation familiale et du travail. C'est pas qu'ils refusent le faire ensemble, au contraire, hein, c'est que les familles et l'organisation du travail viennent percuter sur ces conceptions du faire ensemble.
Et si je peux rajouter quelque chose par rapport aux transformations du monde rural, ce qui était aussi intéressant pendant les immersions, c'est que j'étais souvent, je logeais dans des gîtes, donc avec des gens, j'étais juste à côté de l'entreprise agricole la plupart du temps. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est que parfois ces entreprises-là sont les seuls employeurs en fait de territoires ruraux assez délaissés. Les jeunes ruraux du coin qui se destinent au monde agricole ont en fait, vont dans ces entreprises-là parce que parfois ce sont les seuls employeurs de la région. Mais aussi, ce qui est assez intéressant avec le développement de ces entreprises-là, c'est que il y a aussi tout un tas de controverses autour de l'arrivée massive de camions qui tous les jours passent dans le village 10 fois par jour, l'arrivée de tracteurs qui se déplacent de plus en plus, qui vont de plus en plus proches des maisons. Il y a plein de controverses autour de ces entreprises qui rachètent justement le champ du voisin et qui après c'est les controverses autour par exemple de lancer de pesticides. Enfin, il y a tout un tas de il y a vraiment, je pense, tout un travail à faire autour de cette question-là, de l'implantation de ces boîtes sur des territoires ruraux et des toutes ces controverses autour de ça. Moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu le temps de l'écrire, de le faire, mais il y aurait tout un truc à faire autour de ça qui est assez intéressant.
Et alors j'en profite pour demander justement quel est le point de vue et comment, quelles sont les réactions des collectivités et des élus par rapport à ces entreprises.
Alors, les grandes entreprises intégrées ou les entreprises qui font de la prestation?
Non, les grandes entreprises intégrées. Enfin voilà, comment est-ce qu'il y a un regard particulier politique sur.
Pour l'avoir rencontré, pour avoir dîné avec certains, ils les mettent en avant, quoi. C'est vraiment une mise en avant de ces boîtes qui représentent le territoire. C'est la réussite très locale, etc. C'est le petit du coin qui a réussi à grandir et à. Enfin voilà, il y a tout un discours autour de ça. Après, je sais pas, François, si toi t'as plus de.
Sur l'autre phénomène, la tertiarisation. L'invisibilité des formes d'organisation productive déstabilise les élus. Vous avez des élus autour de Toulouse, par exemple, qui me disaient « Mais je ne sais plus qui exploite les terres de ma commune. Donc, dans l'appareil cadastral ou statistique communal, il y a des exploitants agricoles, mais l'exploitation, elle est gérée par des tiers ou elle est gérée par des entreprises qui ne sont plus situées forcément à l'échelle du village ou de la commune. » Donc, effectivement, il y a parfois une déconnexion entre le siège social de ces entreprises et le lieu où s'exerce. Donc, effectivement, il peut y avoir un point de vue. Alors, mais pour le coup, on n'a pas réalisé d'enquête ayant pour objet, effectivement, d'interroger les politiques sur ces formes-là. Je pense que c'est une enquête en soi. Je pense que ça serait, à mon avis, là, on énonce des hypothèses, mais il faudrait vraiment travailler concrètement là-dessus. Je pense, comme dit Loïc, à la fois certains chefs d'entreprise, enfin certains maires ou certaines collectivités sont ravis de voir effectivement prospérer une entreprise. Après, c'est pas forcément la même chose de la part du maire d'une commune qui voit simplement arriver les tracteurs et pas forcément s'installer un siège social. C'est toujours pareil. Je pense que on n'a pas la même vision de l'entreprise si on se situe ou on considère qu'on est une commune support et pas forcément créatrice d'activité. Donc, je pense que le regard que portent les élus sur ces formes-là diverge énormément. Et alors, à l'échelle nationale, on voit bien que effectivement c'est la patate chaude. On voit bien que c'est un objet qu'il est difficile de penser politiquement. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Encore moi. Désolée. ouais, c'est que donc voilà, la question là, c'était plus sur la comment sur certains territoires on s'accommode ou pas de la présence de main-d'œuvre immigrée plus ou moins déclarée, parce que sur certaines entreprises que vous avez citées, mais peut-être dans d'autres, comment est-ce que ça suscite des réactions, des commentaires, ou au contraire est-ce qu'on n'en parle pas, est-ce que peut-être qu'ils pourraient être pointés du doigt finalement ces grands employeurs qui embauchent à bas prix, en payant mal, je sais pas comment c'est. Est-ce que ça suscite des réactions, disons, voilà.
Chez les élus, je pourrais pas répondre parce qu'en fait, j'ai enquêté aucun élu. Je me suis vraiment concentré dans l'entreprise et moins hors de l'entreprise. Là-dessus, je vous dirais une bêtise en fait. Donc, je préfère vraiment vous dire que j'ai aucune. Je pourrais pas vous répondre là-dessus. Je sais pas, François, si toi tu as une idée, mais après.
Non, c'est parce que je pensais. Enfin, on a eu une séance sur le travail agricole salarié avec le bistrot aussi. Enfin, c'est un sujet qu'on aborde un petit peu régulièrement et qui a refait surface aussi pendant le premier confinement parce que il y avait besoin de main d'œuvre, etc. Et du coup, il y a eu quand même des.
Ce que Loïc montre dans sa thèse, qui est très intéressant, c'est que. En fait, les autochtones ne sont pas employés sur les mêmes chaînes de production ou dans les mêmes ateliers. Enfin, je préfère te laisser parler, mais les femmes du coin sont plutôt au conditionnement et les hommes ne sont pas forcément dans les champs non plus. Ils sont dans d'autres secteurs ou alors ils sont chefs d'exploitation. Vous voyez, le recours à la main-d'œuvre locale en plus varie d'un type d'exploitation à l'autre, d'un type de production à l'autre. Mais souvent, la coexistence, elle se fait selon des façons très différentes. Mais Loïc, tu peux peut-être.
Je peux uniquement parler de la manière effectivement dont sont organisées les équipes dans l'entreprise, et notamment du coup les équipes de saisonniers étrangers, quoi. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'organisation raciale et genrée, avec l'idée que les femmes marocaines, on leur délègue les tâches les moins nobles, et au fur et à mesure qu'on monte, plus on est français, plus on accède aux tâches les plus, enfin, considérées comme les moins pénibles, on va dire. Et puis toute la question de la naturalisation entre guillemets des hommes et des femmes étrangers, donc voilà, l'idée que le chef de culture va positionner plutôt cette équipe ici parce que l'équipe sera considérée uniquement d'arabes et que les arabes supportent mieux la chaleur que les français. Ces idées-là, cette manière d'organiser les équipes, en tout cas, sur des questions très raciales et très genrées, mais qui est pas, pour le coup, pas propre à la grande entreprise, qui n'est pas non plus propre à l'entreprise agricole, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la question de la reproduction de schémas de domination, etc. Mais après, sur la question des habitants, et là, voilà, je sais pas. Moi, j'ai vu du racisme, etc. Mais dans l'entreprise, j'ai pas véritablement enquêté hors de l'entreprise. Ou alors si, mais à l'échelle du groupe professionnel, c'est-à-dire la manière dont il est représenté hors de l'entreprise, mais pas sur les salariés saisonniers étrangers. Là, je suis vraiment resté dans l'entreprise agricole. Désolé.
Merci. Hein.
Non, mais on est au début de la compréhension d'un phénomène, notamment dans le contexte français. Je pense que c'est important que d'autres chercheurs et des jeunes chercheurs investissent cet objet et l'appréhendent sous un autre angle, en partant du territoire, en partant des ruraux, pour observer. Nous, on a fait le choix, pour ma part, de regarder la grande entreprise sous l'angle d'un néo-patronat, ou sous l'angle du chef de culture pour Loïc. Donc on entre par soit le patron, soit par le chef de culture, mais on pourrait rentrer par le voisin, on pourrait rentrer et ça, bon, on peut pas tout faire, mais c'est un objet voilà qui pendant très longtemps n'a pas attiré notamment les jeunes chercheurs, et puis on peut espérer que des jeunes chercheurs s'en saisissent ou s'intéressent à ça.
Après, sur la question des ouvriers, il y a quand même des saisonniers étrangers, il y a beaucoup de travaux, quoi.
Sur les saisonniers, il y en a beaucoup.
Il y en a pas mal, mais je sais pas si cette question-là propre, sur la question que vous posez, je sais pas si ça a été plus ou moins étudié, mais.
Alors, il est temps de vous remercier à tous les deux pour cette conférence très, enfin, passionnante. Hein. Et dynamique. Merci encore à tous les deux. Vous pouvez suivre l'actualité du Bistrot des Ethnologues sur notre site internet où vous avez toute la programmation. Nous mettons au fur et à mesure les liens vers les visioconférences. Écoutez, merci à tous
pour
cette soirée. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis et à très bientôt.
Merci de nous avoir invités. C'était très gentil, très sympa. Merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Bonne continuation alors pour toutes ces perspectives et toutes ces recherches à venir.